coin de la rue, il y a des gens qui cultivent l'extraordinaire au quotidien. Hors système, hors normes, ils mènent leur révolution, la nôtre aussi, celle de demain. Ils ont accepté de me donner quelques heures, quelques jours de leur vie, dans des lieux qui leur parlent. Pour ces gens démesurés, il fallait autre chose que des questions-réponses et un récit biographique, un portrait avec des ruptures, des diagonales et des changements de perspective. Vous écoutez L'Extraordinaire au quotidien, une série de portraits sonores conçus et réalisés par Sarah Roubateau. Pour moi, Cécile, c'est d'abord une voix que j'ai entendue à la radio, puis une personne que j'ai rencontrée dans un café en face de la gare Saint-Lazare, sans savoir que 2 heures après, je serais assise à côté d'elle dans le fauteuil rouge d'un théâtre parce que son amie a eu un contretemps. Quelques jours plus tard, l'invitation est lancée. Je peux venir à son atelier. Mais ce portrait sera un peu différent des autres parce que, pendant que j'enregistrerai Cécile, elle va me sculpter. Cécile est une sculpteur de terrain. Elle passe 3 mois sur un cargo pour sculpter des marins, sculpte des prisonniers, des vieilles femmes en maison de retraite, des adolescents en soins psychiatriques, des religieuses dans un couvent. Cécile s'intéresse aux lieux d'enfermement, aux lieux où le temps a une différente emprise sur les gens. Comme tous les gens dont je fais le portrait, l'antre de Cécile n'est pas ordinaire. Son atelier n'a pas d'adresse. C'est une bergerie au fond d'un sentier, dans un petit village de Normandie. Et pendant 3 jours, j'ai eu le privilège d'assister au spectacle de ce geste, modeler la terre. Naïvement, je croyais qu'un sculpteur cherchait à appliquer à sa sculpture des émotions, qu'il voudrait rendre la femme ou l'homme représenté plus nostalgique, plus inquiet, plus mystérieux. Mais un sculpteur ne pense pas du tout dans ces termes.
Moi, je suis très émue par une ligne. Ce sont des masses, tout ça. C'est des accroches de lumière, c'est... Il y a aussi quelque chose qui est plus intérieur, qui est la force. Est-ce qu'elle a une force? Est-ce qu'elle m'interroge? Est-ce qu'elle est étrange? Ou est-ce que tout est évident et ça coule et finalement il se passe plus rien parce que c'est tellement maîtrisé?
Je pense que les sculptures, elles se chargent en fait. C'est comme une charge énergétique, c'est comme une charge physique, quoi.
Moi, je cherche des tensions, en effet, et je cherche aussi, curieusement, je cherche à ce qu'il y ait le moins d'interprétations possible. Parce que mon simple geste, déjà, est une interprétation en soi. Et je ne cherche pas à en ajouter une autre, tu vois. Donc, c'est un état de présence en action. Avec, de temps en temps, une prise de recul qui s'opère. Et où là, tu te dis, en effet, cette masse n'est pas à sa place. Ou cette lumière vient contredire la ligne, par exemple. Et puis moi, des fois, je ne sais pas ce que je vois. C'est la sculpture qui dit ce que je vois. Je ne peux pas dire ce que je vois. C'est assez troublant. Tu es présent à ton geste, mais tu n'es pas conscient. Je pense que dans toute discipline, en fait, il y a quelque chose à un moment qui va te déborder. Et en même temps, si tu veux mener ton mouvement à bien, il faut absolument avoir une maîtrise du geste et une connaissance une conscience. Voilà, en fait, c'est pas tant la maîtrise du geste dont il est question que de la conscience du corps.
On ne sait pas si elle parle de sculpture ou de danse. Deux disciplines dans lesquelles il faut négocier l'équilibre entre la maîtrise et l'abandon. Un équilibre que notre société nous autorise rarement à chercher. Tant on nous demande sans cesse de tout contrôler, de tout expliquer. On nous dit rarement que s'abandonner, que perdre contrôle, c'est bien. Cécile a pratiqué les deux disciplines. Elle a été danseuse, professeure de danse africaine.
La danse africaine, non pas comme pratique exotique où les gens se disent « Oh là là, c'est trop fort, tu lâches tout, quoi, c'est... Ah, ça fait trop du bien, ah, puis ils ont ça dans le sang, hein, les Noirs, ils ont ça dans le sang. » Mon peu de vie en Afrique, là, j'ai passé 2 ans là-bas, m'a montré qu'il y a des millions d'Africains qui n'ont pas la danse dans le sang, ni la musique, tout comme il y a des millions d'Occidentaux qui n'ont pas la musique dans le son et puis d'autres qui l'ont. Et on a des représentations complètement sauvages. Complètement sauvages, c'est-à-dire qui seraient, en fait, il suffit de te laisser aller, puisqu'ils ont ça dans le son. En fait, eux, ils font aucun travail. Et je me suis beaucoup, beaucoup insurgée contre ça quand je travaillais dans ce domaine d'activité. Beaucoup. En défendant la conscience, d'essayer de comprendre ce qui se passait, ce qu'on demandait à son corps, à quel endroit on lui demandait un tel mouvement plutôt que tel autre. Et un jeu entre je tiens, je comprends, je suis conscient, je maîtrise. Et en même temps, j'apprends à lâcher. Mais lâcher, ça prend. Lâcher sa colonne vertébrale est aussi compliqué que de tenir sa colonne vertébrale.
En sculpture aussi, Cécile remue les clichés. Car elle représente ce qu'on ne représente pas. Les prisonniers, les malades, les vieux, les religieux. Elle cherche une vérité au-delà de la représentation qu'on se fait de ces groupes et que les gens se font d'eux-mêmes. Une sculpture peut modifier non seulement le rapport d'une personne à elle-même, mais aussi son statut dans le groupe. Et comme Cécile travaille toujours dans des microcosmes, son travail fait bouger les lignes des hiérarchies sociales.
Les gens voient les sculptures apparaître et peu à peu, ils viennent me voir en me disant « Ah, moi, ça m'intéresse. Mais toi, je ne vais pas t'intéresser, bien sûr. » En général, c'est ça qui se passe. Les gens sont persuadés qu'ils ne sont pas intéressants pour un sculpteur. Des grands-mères dans la maison de retraite, elles ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse avoir envie de les représenter. Il y avait un homme, à l'époque, on appelait ça des idiots. Et cet homme, il ne parlait pas. Il avait des sons, il n'articulait pas. Mais ils me suivaient. En fait, ils étaient deux dans la maison de retraite. Ils me suivaient, donc je me déplaçais avec mes sellettes d'une personne à une autre. Alors, il y en a un, il avait l'oreille musicale, il écoutait tout ce que je mettais comme musique. Il y avait des moments, il était en une sorte d'expression extasiée sur son visage. Et dans les 2 secondes, il passait à une expression, mais d'une souffrance infinie. Je me suis dit, lui, quand même, il parle pas, mais alors, il dit beaucoup avec son visage, tu vois. Et donc, un jour, je lui ai dit, mais Bernard, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une sculpture avec vous? Et il a dit « Ouais !» avec cette espèce d'expression extatique comme ça. Et puis cet autre monsieur qui, à l'inverse, était très gros. Il avait un ventre énorme, il n'était pas beau. J'ai fait leurs 2 portraits à ces 2 messieurs. L'un a évoqué, les 3/4 des gens qui voyaient cette sculpture pensaient à Hitchcock. Tellement il y avait de pétillance dans les yeux de cette sculpture. Et le monsieur qui me l'a acheté, c'est un banquier. Tu vois, c'est génial. Et ce banquier, il ne savait pas, quand il m'a acheté cette sculpture, que c'était une sculpture d'un idiot, gros et moche. C'était fantastique. Et l'autre monsieur, il a évoqué à plusieurs personnes Pierre Rabhi. Mais ça a été une expérience incroyable. Et ensuite, quand j'ai exposé ses portraits, mais eux, ils ont complètement changé de statut dans la maison de retraite. Tout d'un coup, les gens se trouvent absolument représentables. donc présentable. Ça, c'est quelque chose de récurrent dans mon travail. Et c'est très important pour moi. C'est un peu l'endroit où je me dis, voilà, ce temps-là de rencontre, s'il peut être bienfaisant, j'en suis contente.
Les rencontres ne sont pas toujours heureuses et parfois, il faut un sacré coup du hasard pour que quelque chose émerge de ce qui aurait pu ne rien donner.
Je vois de faux marins, je vois leurs petites navigations, leurs yeux perdus pour rien au loin, leurs petits meurtres clandestins, je vois.
C'est très compliqué quand tu es en train de faire le portrait d'un matelot et que tout d'un coup, tu te rends compte que par exemple, c'est un monsieur raciste. Ça, c'est très compliqué. Là, tout d'un coup, tu vois, tu peux pas faire abstraction. Donc, la sculpture s'imprègne de quelque chose. Et là, c'est allé très loin parce qu'en fait, en même temps, c'était fantastique. Il y a eu un coup de vent la nuit. Le bateau a bougé, plus que prévu. Et dans la nuit, les pièces qui étaient sur des sellettes, il y avait 3 pièces en cours dans mon atelier, elles ont fini par terre, forcément. Le lendemain, je vais dans mon atelier et je constate que tout était parti écrasé au sol. Et donc, il y a 2 pièces qui étaient fichues. Voilà. Et il y en a une troisième, justement, un portrait de cet homme qui tenait des propos qui m'ennuyaient prodigieusement. Et il était complètement écrasé d'un côté. Mais cette pièce-là, j'ai décidé que je la gardais. Et là, il m'a dit, mais tu peux pas faire ça. Je lui ai dit, mais bien sûr que si. Bien sûr que si, je vais faire ça. Je lui ai dit, mais regarde tout d'un coup comme elle est devenue intéressante, cette pièce. Alors que c'était seulement ta tête.
Mais parfois, cette vérité est douloureuse à voir et certains la refusent.
Tu vois des enfants fous à force de pourrir.
Il y avait des adolescents en confusion psychique. Il y a une ado qui est venue me voir et qui a absolument voulu que son portrait apparaisse. Et puis ce qui est apparu de son portrait était presque insupportable pour elle. Et c'était surtout très insupportable pour ses parents.
Je vois la nuit qui monte au cœur des jeunes filles. Je vois leurs yeux qui brillent, leur fierté, notre honte. Je sens leur sang qui compte les coups de la peur.
Cet homme maori qui m'a dit non, 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 mais toi tu vas aller chercher derrière mes tatouages. Et je ne veux pas qu'on voit derrière mes tatouages. C'est même dangereux au niveau identitaire. C'est ce que tu vas montrer que je ne veux pas qu'on voit. Alors que par ailleurs, il voulait bien qu'on le prenne en photo. Mais parce que chaque individu joue une histoire différente.
Dans la démarche de Cécile, le moment où le modèle pose est une véritable rencontre. Ce n'est pas les coulisses du résultat final, c'est le cœur même de son travail.
Ça ne peut pas se faire sans rentrer en communication. Ou alors, c'est un travail d'artiste avec son modèle, c'est-à-dire, tu es une plante sur une table et tu essayes de trouver la bonne pose pour que ces dames et ces messieurs qui sont devant toi et qui font des peintures, voilà, aient une sorte de matière première qui leur convienne. Tu es un joli poireau.
Impossible de ne pas voir le miroir entre le travail de Cécile et le mien. Dans notre désir de faire des portraits de gens qui ne sont pas en vue, marginalisés par la société ou bien qui cultivent même leur marge, et de faire leurs portraits en prenant notre temps. Cécile travaille dans la matière, moi dans l'immatériel. Elle par l'œil et la main, moi par l'oreille et la voix. Cécile est encombrante avec ses sacs de terre, ses outils, ses trépieds, mais son travail est visible aux autres. Moi, je n'ai rien, un petit micro. Mais la voix des autres, je l'emporte et ils ne savent pas ce que je vais en faire. Ils me la confient, ils me font confiance.
Thank you. alejándome de ti.
Cécile se met sur la pointe des pieds, pivote, fléchit les jambes. Elle danse autour de sa pièce. Voilà qu'elle sculpte mon visage. Moi, je ne vois que le sien, appliqué, qui parfois fait une grimace, qui parfois sourit. Je fixe son visage qui fixe le mien de terre, et je fixe le dos de la sculpture. Juste à côté de l'atelier vit une famille d'étourneaux. Ils passent leur journée à aller d'un arbre à l'autre. Le contraste entre mon immobilité et leur fulgurance, le poids de la terre pétrie par ses cils et la légèreté de leur vol me plaît. Rien n'est plus inconfortable que l'immobilité. Mais on s'y installe dans l'inconfort. Le deuxième jour, je me surprends à retrouver facilement la pose, comme si mon corps avait imprimé cet inconfort. Mes muscles s'installent dans leur courbature et ils y sont bien. C'est lors de cette séance que la tête de la sculpture s'est penchée. Cécile s'en étonne, car rien n'est prémédité. Cette tête penchée, elle apparaît sur toutes les photos de mon enfance. Quelque chose s'est donc relâché. Je me laisse aller, je suis moins sur mes gardes.
Ah ben voilà, tu parlais d'une tête penchée, ben elle s'est penchée. Ben parce qu'il y a un moment, j'ai fait ce que je voyais. C'est bien, elle est plus étrange. Elle te va mieux. Mais elle peut-être penchait pas hier. Je pense que tu contrôlais plus hier. T'étais plus en... Parce que tu savais pas à quoi t'en tenir aussi, tu vois. Et donc, quelque chose se pose aujourd'hui qui n'était pas là hier.
La sculpture commence à parler, elle aussi. Il faut qu'elle parle, mais pas qu'elle bavarde. C'est là que le sculpteur doit savoir où s'arrêter, pour laisser une place au non-dit.
C'est ce qui ressort de toi quand je passe des moments avec toi. Tu vois, il y a un volontarisme, il y a une décision qui est prise comme ça. J'avance. Et quoi qu'il arrive, j'avance. Il y a quelque chose d'un positionnement dans le monde qui est très, très volontariste comme ça. Un peu masculin. Et en même temps, regarde, là, c'est d'une délicatesse, tu vois. Féminité voluptueuse. Moi, j'aime beaucoup ce contraste-là.
Le temps qu'exige la sculpture permet de s'attarder. Venir dans l'atelier de Cécile, c'est s'accorder une parenthèse, un temps de disponibilité, au silence et à l'immobilité. Dans un monde où règne la vitesse et l'image fixe, ces parenthèses sont essentielles. Elles nous permettent de retrouver quelque chose qu'on a perdu, d'être attentif au mouvement, au geste, à la matière. Être en présence physique à soi, à l'autre, au lieu où on se trouve.
Ce que moi je vis ici, c'est une sorte de disponibilité au regard, une extrême disponibilité au regard. Mais la personne qui le vit avec moi, elle a elle-même une extrême disponibilité, je dirais, elle a un temps incroyable consacré à l'immobilité et au silence, ce qui est rare dans son existence.
La photo nous rappelle ce qui a disparu. Mais la sculpture est éternelle et elle est là, en présence physique. On lui tourne autour. Dans une sculpture cohabitent 100 portraits et plusieurs âges. Alors le sculpteur ne capte pas seulement ce qui est caché, il capte aussi ce que la personne pourrait être.
Je voudrais me perdre de vue, me décaler d'un demi-ton, ouvrir mes tubes de couleurs comme avant l'accident.
Cécile fait partie de ceux qui captent les potentiels en nous. Ces autres formes de nous qu'on laisse au seuil du réel.
La photo, c'est une fulgurance saisie, quoi. Il n'y a pas ça. Moi, je ne peux pas saisir une fulgurance. Par contre, je peux saisir de la profondeur.
Je voudrais me perdre de vue, perdre ma mélodie motrice. La dièse mineure, un autre triste, je voudrais un do au milieu.
Moi, ce que je trouve très beau dans la sculpture, c'est que elle a moult facettes, une sculpture. C'est qu'en fait, elle n'existe pas une bonne fois pour toutes sous un angle. Ce que je vois là n'a absolument rien à voir avec ce que je vois là. Mais vraiment rien, quoi. Et parfois, dans un portrait, peuvent cohabiter un bout d'enfant et un bout de la vieille personne qu'il va peut-être devenir. Tu vois, donc c'est ça qui m'intéresse. De ne pas figer, de ne pas fixer une bonne fois pour toutes un être dans une apparence qui est tellement, tellement éphémère. C'est-à-dire que là, tu me vois aujourd'hui avec cette tête. Peut-être que la semaine prochaine, parce que je serai tombée amoureuse ou parce que j'aurai appris une très, très, très mauvaise nouvelle, mon visage sera absolument autre. Tu vois, quand on dit à quelqu'un « Oh là là, qu'est-ce que t'as pas bonne mine ?» En général, on le dit pas d'ailleurs parce qu'on pense que c'est pas gentil. Tu vois, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très infime, c'est quoi? C'est une couleur sous les yeux, un léger froncement de sourcils, un léger frémissement sur la lèvre, quelque chose qui s'est à peine creusé sur un visage. C'est infime. Et pourtant, ça hurle au monde, tu vois, c'est tellement, tellement lisible.
Je voudrais me perdre de vue, finir le pas d'un long exil. Dans une chanson bienvenue, ne plus être clinique.
La sculpture de Cécile nous invite à méditer sur le geste que nous imprimons à notre vie. C'est peut-être ça ce qui compte le plus, le geste. Chacun sait s'il veut chercher, s'il veut archiver ou découvrir, transmettre ou inventer, révéler, soigner. Le métier dans lequel nous commettons ce geste est le fruit du hasard, des circonstances. Alors, au lieu de demander à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, ou au lieu de demander aux élèves ce qu'ils veulent faire comme métier, qu'on nous demande « Quel est ton geste ?»
Si je trouve le bon geste dans mon travail, c'est que j'ai trouvé la bonne posture dans ma vie. Si je suis à la juste place à cet endroit-là, c'est que je suis à la juste place. Et je ne parle pas d'une place sociale, je parle d'un endroit entre soi et soi, quoi.
On nous dit que mûrir, c'est prendre plus de responsabilités. Avancer dans la vie, c'est augmenter ses acquisitions et ses certitudes. Avoir une maison, une voiture, des écrans plats. Pour Cécile, comme pour beaucoup d'artistes, mûrir, c'est aspirer à toujours plus de libération, plus de simplicité. Les artistes prennent souvent la trajectoire inverse de celle que le monde leur assigne.
Des fois, je suis fatiguée des portraits et en même temps, il suffit que je m'y remette pour que je reparte comme un explorateur, tu vois, que j'ai l'impression que ça redevient un paysage tellement unique et j'aspire à plus encore. « plus je libère quelque chose, plus j'ai envie de libérer plus encore. Alors me libérer, c'est pas forcément complètement sortir de la figure, du réalisme, c'est pas ça. Il y a un moment, voilà, tu es cette personne-là dont j'ai fait le portrait, mais je l'emmène ailleurs, ce portrait. Moi, j'ai pas de regret. J'ai payé cher, hein, mais j'ai pas de regret. Même pas celui de la fortune ou de la notoriété. En plus, j'ai pas tout à fait terminé quand même mon chemin, donc encore un peu de temps. Ça peut pas être ordinaire. C'est-à-dire que ça, là, c'est unique. Je l'ai jamais vu, cette pièce arriver. J'ai jamais vu ce bassin, tu vois, cette taille de bassin avec ce petit buste qui sort, avec ses longs cheveux qui coule comme ça, avec cet rapport très masculin en bas, très féminin en haut. Je ne l'ai jamais vue, cette pièce-là. Donc, jamais c'est ordinaire. Si jamais je rentrais dans la sensation que c'était ordinaire, oh, mais je serais morte d'ennui.
Aunque mi vida esté de sombra siena.
Rien n'est plus répétitif que ce geste-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même geste et les mêmes outils depuis 25 ans. Donc, qu'est-ce qui fait que ça tient comme ça? C'est que justement, ça reste, c'est jamais dans l'ordinaire. Jamais, 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 jamais. Ben, sinon, je ferais des choses hyper glamour qui se vendent et qui rapportent de l'argent. Ou même sans cette condescendance, je serais potière. Voilà. Tu vois, j'adore les potiers. Je trouve que c'est un métier très beau, où tu fais de la vaisselle. Tu as bien vu, j'ai plein de jolies vaisselles à la maison. J'aime bien les beaux objets du quotidien, parce que je trouve que le quotidien, il est là dans nos vies. Alors essayons de le rendre beau, parce que de toute façon, il va nous envahir toute l'existence. Ce serait génial. Donc si je trouvais à un moment un sentiment d'ordinaire dans un portrait, ben, la situation dans laquelle on se trouve, elle est quand même assez inédite. Tu me proposes de venir faire un portrait, moi je fais des portraits, je me dis enfin bon, j'ai pas le temps de passer 2 jours à me faire interviewer. Par contre, faire des portraits m'intéresse, donc je vais proposer à Sarah de venir et je vais faire son portrait. Sans te connaître, une situation comme celle-là, elle est très très peu fréquente dans mon travail.